Luc a choisi une personne assez obscure, puisqu'on ne connaît même pas son nom, donc la fille de Jephté. Et moi, ce matin, je vais partager avec vous une partie de la vie d'un berger. Et un berger qui, lui, est célèbre, par contre, le plus célèbre des rois d'Israël, David. Donc, je vais faire ça en trois fois. Je vais commencer ce matin avec sa jeunesse, avec un épisode célèbre qu'il a introduit dans le ministère, en fait, hein, qu'il a exercé auprès d'Israël. Une prochaine fois, je parlerai de sa vie d'adulte et de père. Et puis, je terminerai sur ce qu'il a transmis à son pays, à son peuple et à son descendant. Donc, je commence le passage que je vais lire se trouve dans 1 Samuel au chapitre 17. Et pour vous donner donc un mot de contexte, le peuple d'Israël a demandé à Dieu un roi. Donc précédemment, on était au temps des juges, donc Jephté par exemple, ou Samson, Gédéon. Donc ces juges qui se levaient quand le peuple se détournait de Dieu. Et à un moment donné, le peuple a dit, bon, maintenant, nous, on veut faire comme les peuples autour de nous, on veut avoir un roi. Et Dieu va répondre à cette demande et va choisir Saül, premier roi d'Israël. Et c'est le prophète et le juge Samuel qui va être chargé de doindre ce roi. De le placer devant le peuple en tant que celui qui a été choisi par Dieu pour le conduire. Mais Saül, qui est un homme plus grand, hein, le texte dit qu'il dépasse tout le monde d'une tête, donc il y a une grande prestance, Saül est un peureux. Il a peur tout le temps. Et malgré la présence de l'Esprit de Dieu qui, le texte nous dit, tombe sur lui, eh bien Saül va se détourner de Dieu, va désobéir à de multiples reprises, va usurper une place qui n'est pas la sienne, ou va simplement désobéir à ce que Dieu lui demande de faire. Et le texte nous dit que Dieu décide de retirer la royauté à Saül et de la confier à un meilleur que lui. C'est Samuel, encore une fois, que Dieu va envoyer pour oindre, donc pour manifester l'élection sur ce nouveau roi. Et la personne que Dieu va désigner, c'est David, qui est encore un jeune homme à ce moment-là. Donc c'est le chapitre précédent, celui qu'on va lire, donc où Samuel est envoyé dans la famille de Isaïe, ou Jephté, pardon, Jessé, de façon de dire son nom, de Bethléem. Et David est le huitième enfant de cette Isaïe. Et donc vous connaissez ce passage où Samuel va demander à ce que Isaïe lui présente ses fils. Donc Isaïe va lui montrer les sept premiers. Et à chaque fois, Samuel va dire non, c'est pas celui-là qui est choisi. Et finalement, il t'en reste pas encore un. Et oui, il y en restait un qui était resté dans les champs à garder les troupeaux et qu'on fait revenir le petit dernier, et c'est lui que Samuel va oindre pour être le futur roi d'Israël. Il le fait en secret, en prétextant un sacrifice pour que bien sûr Saül n'exerce pas sa vengeance sur David. Et on arrive à ce passage donc de Samuel 17, passage bien connu qui nous parle de sa rencontre avec Goliath. Donc je lis à partir du verset 1, je vais lire presque tout le chapitre. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière. Ils se rassemblèrent à Soko, en Juda, et dressèrent leur camp entre Soko et Azekah, à Éphès-Damin. Saül, de son côté, rassembla les hommes d'Israël et ils campèrent dans la vallée du Chêne. C'est là qu'ils prirent position en ordre de bataille face aux Philistins. Ceux-ci occupaient un versant de la montagne et les Israélites le versant opposé. La vallée séparait les deux armées. Alors un champion sorti du camp des Philistins s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath et originaire de Gath. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze pesant une 60aine de kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze. Il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de sa lance à lui seul pesait 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Il se campa face aux troupes israélites et leur cria. « Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat? Moi, je suis le Philistin et vous, les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, c'est vous qui serez assujettis et vous serez nos esclaves. » Puis il ajouta, « Je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël, envoyez un homme et nous nous affronterons en combat singulier. » Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Or, David était fils d'un Éphratien de Bethléem en Juda nommé Isaïe et qui avait 8 fils. Au temps de Saül, Isaïe était très âgé. Ses 3 fils aînés avaient suivi Saül à la guerre. L'aîné s'appelait Éliab, le second Abinadab et le troisième Shamma. Quant à David, c'était le plus jeune. Lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David faisait le va-et-vient entre le camp de Saül et Bethléem pour y garder les moutons de son père. Chaque matin et chaque soir, le Philistin venait se présenter en face de l'armée d'Israël, et cela depuis 40 jours. C'est à cette époque qu'Isaïe dit à son fils David, « Prends cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains et porte-les vite au camp de tes frères. Emporte aussi ces 10 fromages, tu les donneras aux chefs de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en rapporteras de leur part un gage. Tu les trouveras avec Saül et toute l'armée d'Israël dans la vallée du Chêne face aux Philistins. » Le lendemain, de bon matin, David confia ses moutons à quelqu'un pour les garder. Il prit ses provisions et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Quand il arriva au campement, l'armée était en train de prendre position pour la bataille en lançant le cri de guerre. Israélites et Philistins se rangèrent en ordre de bataille face à face. David déposa son chargement et le confia au gardien des bagages, puis il courut au front. Aussitôt arrivé, il vint demander de leurs nouvelles à ses frères. Pendant qu'il parlait avec eux, Goliath, le champion des Philistins, originaire de Gath, sortit de leur rang et lança son défi habituel. David l'entendit. À la vue de cet homme, tous les soldats d'Israël s'enfuirent terrorisés. « L'avez-vous vu s'avancer contre nous ?» dit l'un d'eux. « Il vient encore insulter Israël. Celui qui le tuera recevra de grandes richesses de la part du roi qui lui donnera en plus sa propre fille en mariage et exonérera toute sa famille d'impôts. » David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui. « Qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ce Philistin et qui lavera le peuple d'Israël de la honte qui lui est infligée? Qu'est-ce donc cet incirconcis de Philistin pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant ?» On répéta à David ce qui était promis comme récompense à celui qui tuerait le géant. Lorsque son frère aîné, Éliab, l'entendit discuter avec les soldats, il se mit en colère contre lui et lui dit « Que viens-tu faire ici? À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe? Je te connais bien, moi, petit prétentieux. Je sais quelles mauvaises intentions tu as dans ton cœur. Tu n'es venu que pour voir la bataille. » David lui répondit « Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je n'ai plus le droit de parler maintenant ?» Puis il tourna le dos à son frère et alla se renseigner auprès d'un autre soldat et on lui fit la même réponse que la première fois. Ce que David avait dit se propagea rapidement et parvint aux oreilles de Saül, qui aussitôt le fit venir. David lui dit « Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. » Mais Saül lui répondit « Tu ne peux pas aller lutter contre ce Philistin, tu n'es qu'un gamin, alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David répondit à Saül quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui. Je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien cet incirconcis de Philistin comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. » Puis David ajouta, « L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours, me délivrera aussi de ce Philistin. » Finalement, Saül dit à David, « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » Puis il lui fait revêtir sa propre armure, lui fit mettre un casque de bronze et endosser sa cuirasse. Par-dessus son équipement, David ceignit aussi l'épée de Saül. Puis il essaya de marcher, mais il n'y parvint pas, car il n'en avait pas l'habitude. Alors il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec tout cet équipement, car je n'y suis pas entraîné. » Puis il se débarrassa de tout, il prit son bâton en main, choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses qu'il mit dans le sac de berger qui lui servait de besace, et sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Celui-ci, précédé de son porte-bouclier, s'avança vers David. Il l'examina, et lorsqu'il vit devant lui un jeune homme roux, de belle figure, il le regarda avec mépris et lui dit « Est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec un bâton ?» Puis il le maudit par ses dieux. « Approche un peu, ajouta-t-il, pour que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » À quoi David répondit, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre. Car l'issue de cette bataille dépend de lui et il vous livre en notre pouvoir. » Aussitôt le Philistin se mit à avancer en direction de David, qui de son côté se hâta de courir vers la ligne ennemie, au-devant du Philistin. David plongea la main dans son sac, en tira un caillou, et le lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin en plein front. La pierre pénétra dans son crâne et il s'écroula, la face contre terre. Ainsi, sans épée, avec sa fronde et une pierre, David triompha du Philistin, il le frappa et le tua. Alors il se précipita sur l'adversaire, saisit son épée, la tira de son fourreau et l'acheva, puis il lui trancha la tête. Quand le Philistin virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Les soldats d'Israël et de Juda s'élancèrent en poussant des cris de guerre et poursuivirent les Philistins jusqu'aux abords de la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les cadavres des ennemis jonchaient la route de Chamarim jusqu'à Gath et Écron. Donc voilà pour le texte de ce matin. Alors évidemment, c'est un texte que... qu'on connaît bien, qu'on a dû entendre plusieurs fois à l'école du dimanche, pour ceux qui y sont allés, qui fait partie de la culture populaire, comme l'exemple du combat du petit contre le grand. En fait, ce texte nous montre que l'important dans ce texte, c'est pas le petit contre le grand, mais c'est plutôt celui que l'Éternel a choisi contre celui qui se dresse contre Dieu. Mais on va un peu examiner les réactions des uns et des autres avant d'arriver à la personne même de David et à essayer de voir un peu de le comprendre peut-être un petit peu mieux et de voir qu'est-ce qui est particulièrement remarquable chez ce géant de la foi. La première réaction que les hommes manifestent dans ce texte, les soldats de l'armée d'Israël, eux sont juste terrifiés. Eux, ils ont peur face à ce géant qui les défie. Ils savent pas quoi faire. On peut noter que le défi que lance Goliath, c'est une introduction au combat. Le Goliath dit que l'issue de ce combat déterminera une soumission ou pas de son peuple. En fait, on voit bien que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est La première chose que fait Goliath, là, c'est un combat psychologique. Il est en train de démontrer la supériorité militaire de son camp par rapport à celui des Israélites. C'est un espèce de prélude au combat, et les Israélites, eux, se sentent démunis parce que, clairement, aucun dans leur rang n'est capable de battre un guerrier tel que Goliath. Donc ils ont peur. Le frère de David, donc son frère aîné, lui, il va... Alors on ne sait pas quelle est son attitude particulière par rapport à Goliath, mais par contre, son attitude par rapport à David montre pas beaucoup d'affection. On peut même parler de mépris, de colère, de jalousie. Et là, on peut peut-être comprendre un petit peu la position de David dans sa famille. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'au moment où Samuel cherchait à quel fils d'Isaïe il devait oindre, eh bien, David était mis de côté, était même pas convié à la fête du sacrifice que Samuel avait annoncé. Le texte nous dit qu'Isaïe était un homme âgé à ce moment-là. Un autre texte de David lui-même dit « Je suis ma naissance était couverte de péché ». Et donc ça donne l'impression qu'effectivement David était pas considéré dans sa famille, au-delà du fait que c'était le petit dernier, il était caché et méprisé. Certains pensent même qu'il était peut-être un fils illégitime que Isaïe avait eu dans sa vieillesse. Donc pas de soutien de la part de la famille de David et du rejet. Saül, il a peur lui aussi. Le texte nous dit que comme ses soldats, il est effrayé. Et quand il voit arriver David, lui aussi, il va le regarder et voir simplement un gamin qui a probablement moins d'une vingtaine d'années à ce moment-là. Pas particulièrement grand, beau de visage, mais manifestement pas d'un physique impressionnant. Et Saül va dire, bon ben, ok, personne veut y aller, alors de toute façon, vas-y, on peut toujours essayer, même si tu échoues, on essaiera de trouver une autre solution. Et il va lui proposer d'ailleurs une solution toute humaine. Il y a un petit côté ridicule dans ce passage-là où on va mettre sur David l'armure, le bouclier, la lance, l'épée, que manifestement il est incapable de porter. Donc on va lui donner tous les outils qu'un guerrier est censé transporter avec lui face à ce genre de situation. Le dernier personnage qu'on peut mentionner dans cette histoire, à part David évidemment, c'est Goliath. Et donc Goliath, lui, il est dans son rôle de Philistin qui cherche à impressionner les soldats qui sont face à lui. Donc j'en ai déjà parlé. D'abord, il y a cet aspect psychologique du fait que il est trop grand pour que on puisse penser réussir à le vaincre. Donc là, on voit qu'il y a un combat psychologique, mais dans n'importe quelle guerre, on voit l'aspect économique de cette guerre. L'issue de ce combat va déterminer quoi ? Va déterminer qui va payer un tribut à qui. D'accord ? Donc il y a une guerre économique qui se joue là derrière, en plus de la guerre, évidemment, l'aspect purement militaire. Goliath met aussi en avant un aspect spirituel à ce combat. Quand ces deux armées s'affrontent, deux peuples s'affrontent, deux cultures, mais aussi les dieux que ces peuples représentent. Et Goliath met en avant, il va insulter David par ses dieux, mettre en avant l'aspect spirituel de ce combat. Alors que, de leur côté, les soldats d'Israël, eux, avaient clairement mis cette dimension-là complètement de côté. Ils ne le mentionnent pas. Et c'est d'ailleurs la première chose qui est intéressant de noter dans la façon de se comporter de David. C'est que la première chose que fait David, c'est que, d'une part, il va parler. On le voit qu'il va parler à plein de monde. Alors, il le fait d'une façon un peu particulière. Donc, il va poser des questions en demandant qu'est-ce qui a été promis pour celui qui accepterait de combattre ce géant. Mais ce qu'il va particulièrement mettre en avant, c'est le fait que l'insulte, elle est pour Israël, bien sûr, mais au-delà d'Israël, cette insulte, elle est pour l'armée du Dieu vivant. Et il va poser cette question pas à une seule personne, il va la poser à plein de monde. Alors qu'il a déjà eu la réponse. Et il le fait pour une raison, je pense, bien précise. C'est que, et il va le dire juste après, il veut redonner non seulement du courage aux soldats de l'armée, mais il veut aussi leur montrer que le défi, il est d'abord spirituel. Il ne s'agit pas seulement d'un défi militaire, il s'agit d'un défi spirituel. Celui qui a été insulté, c'est le Dieu d'Israël, le Dieu des armées d'Israël, le Dieu vivant. Et il va poser cette question-là à plein de monde. Parce que, et ça va être une des caractéristiques de David, ça va être la principale force de David, c'est que c'est un meneur d'hommes. Tous les textes qui vont suivre vont mentionner le fait que tout le peuple va l'aimer. Les responsables du peuple vont l'aimer. Les prêtres vont l'aimer. David est quelqu'un qui va réussir à mobiliser autour de lui plein de gens de conditions différentes, de statuts sociaux différents, et tous ces gens-là vont être prêts à le suivre. Et ce qui est intéressant, c'est que David met en avant la place de Dieu, met en avant l'identité de Dieu dans ce qu'il va partager avec ceux qui sont autour de lui. La deuxième chose qu'on peut noter, en fait, même pas noter, en fait, qui nous saute aux yeux quand on lit ce texte et quand on voit la réaction de David, ce qui est impressionnant, c'est son assurance. Son assurance, la façon dont ce jeune homme parle, elle est impressionnante. C'est un berger. Les bergers ne sont pas particulièrement valorisés dans sa société. C'est le petit dernier d'une petite famille de Bethléem, méprisé par tous ceux qu'il connaît, qui a un aspect extérieur pas particulièrement impressionnant. Et il va parler avec une assurance qui défie l'entendement. On va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il va répondre, moi. Alors, que personne ne perde courage, d'accord? Que personne ne perde courage, moi, ton serviteur, j'irai et je combattrai. C'est quelque chose qui est j'ai envie de dire, son conditionnement social et familial, il n'y a rien qui le porte à avoir une attitude comme celle-là. Et là, c'est peut-être le moment de se rappeler aussi que, dans le chapitre précédent, au moment où Samuel lui confère l'onction, donc je lis chapitre 16, verset 13, « Samuel prit la corne pleine d'huile et oignit David en présence de sa famille, et l'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. » L'Esprit de l'Éternel est tombé sur David, et le texte ne nous dit pas exactement l'action de l'Esprit de l'Éternel, qu'est-ce qui se passe pour David à ce moment-là. Mais on peut quand même noter que ce n'est pas la même chose que pour Saül. Parce que pour Saül, quand l'Esprit de Dieu tombe sur lui, Saül, lui, il perd, j'ai envie de dire, il perd son libre arbitre. La première chose qui lui arrive, c'est qu'il devient exalté. Comme donc il y a un groupe de prophètes qui passent en chantant, et Saül, lui, il perd la tête. Et il se met à chanter, à danser avec les prophètes, hein, chose que manifestement il n'avait jamais fait auparavant. Donc indépendamment de sa volonté, il se retrouve à faire ça, et c'est clairement l'action. Le texte nous dit c'est l'action de l'Esprit de Dieu qui le pousse à se comporter de cette façon-là. Et le texte dit que quand l'Esprit se retira de Saül, ben il s'arrête. Donc Saül, le timide, le craintif, le peureux, quand l'Esprit de l'Éternel tombe sur lui, d'une part, il agit comme il n'a pas envie d'agir. Ensuite, il va manifester un certain courage pendant, en tout cas, du moins un certain temps, et conduire les armées d'Israël à la victoire, avant finalement de recommencer à écouter son propre cœur et à se détourner de Dieu. David, lui, ne réagit pas comme ça. Mais par contre, on voit dans son attitude des caractéristiques qui sont propres à l'action de l'Esprit que nous, on connaît davantage. Parce que nous, l'Esprit ne tombe pas sur nous. Pour nous, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous et nous changer de l'intérieur. David, lui, il voit que c'est Dieu qui a été insulté d'abord. Il manifeste une assurance et un courage qui, j'ai envie de dire, dépasse sa condition. Et enfin, quand il va parler à Goliath, donc ce qu'il lui dit, c'est quand même particulièrement. Il a une formulation qui est particulièrement percutante. Hein. Toi, tu t'avances avec une épée, un arc, c'est une lance et un javelot. Moi, je m'avance devant toi au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Ma force. Et mon bouclier, c'est Dieu. Et effectivement, ce qu'il a, lui, il a un bâton et une fronde avec des pierres, en face d'un homme qui est carapaçonné de bronze, des pieds à la tête, qui a des armes qui sont plus grosses que David lui-même. Enfin, bon, c'est un char d'assaut contre un fantassin. Et David a cette formulation en mettant. Il met quoi en avant, David ? Il met la gloire de Dieu en avant. Il s'approche de Goliath en disant « C'est l'Éternel qui donne la victoire. La victoire lui appartient. » Et la gloire de cette victoire va lui revenir à lui. Donc c'est ça qu'il fait. Il donne gloire à l'Éternel. Et une fois qu'il a fait ça, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va au combat. Il y va. Il y va. Et le texte va plusieurs fois répéter, l'Éternel était avec David. Et la victoire était pour lui. Donc, l'aspect technique de ce qui se passe, où la pierre de la fronde va aller percuter le front du Philistin, alors que tout le monde est en train de courir. Hein, donc, moi, je ne suis pas un expert en fronde ou en tir, en quoi que ce soit, mais bon, on se doute bien que la probabilité d'arriver à réussir un coup pareil n'est pas énorme. Dieu donne la victoire à David, qui s'est engagé avec ce qu'il avait avec ce que Dieu lui avait donné, il s'est engagé pour lui. Ce qui est intéressant de voir, c'est aussi la façon dont David va justifier son action et sa confiance. Parce que donc David montre la confiance absolue qu'il a en Dieu, et cette confiance, elle est basée sur une expérience. Ce n'est pas simplement un ressenti. David, il a expérimenté, au cours de sa vie de berger, il a expérimenté, il a appris à connaître qui est Dieu. Parce que lui faire confiance, c'est bien, mais il faut savoir à qui on fait confiance. David, il a expérimenté que quand il a fait confiance à Dieu, eh bien Dieu a été là, parce que David, il a déjà combattu plus fort que lui. Il a déjà combattu, alors le texte nous dit, des lions, des ours, qui effectivement faisaient partie de la faune locale. A priori, là encore, hein, une fois, un homme tout seul face à un ours ou à un lion, la logique des choses fait qu'il n'a pas beaucoup de chance de s'en sortir. Mais David a déjà eu l'occasion de voir que l'Éternel lui a accordé la victoire quand il s'est appuyé sur lui. Alors en voyant ça, on pourrait se dire, ce David, il est trop fort, il est juste bon. Mais ce David, il reste. Alors on verra par la suite que bien sûr il a des failles et des faiblesses, évidemment. Mais il est aussi un modèle pour nous. Et moi, ce que je retire de cette histoire que le texte nous présente sur David, c'est que David a su voir, il a su voir les enjeux spirituels de la situation dans laquelle il se trouvait. Il a su voir quels étaient les enjeux, qu'est-ce que ça voulait dire de la relation d'Israël à Dieu, ce qui était en train de se passer devant lui, ce que Dieu mettait devant lui à accomplir. Je pense qu'il avait bien conscience des autres enjeux, hein, parce qu'il y avait évidemment d'autres enjeux que les enjeux purement spirituels. Hein, et dans nos vies, c'est la même chose. Dans nos vies aussi, il y a des enjeux spirituels dans nos situations. Et souvent, on voit les enjeux purement matériels, donc la sécurité, le bien-être, le prestige, éventuellement même la vie. Là, à ce moment-là, David risque sa vie dans cette histoire. Mais David, là, choisit de mettre les intérêts de Dieu au premier plan. Il choisit les intérêts de Dieu. Il a vu, il a discerné. Je pense que là, on peut voir vraiment l'action de l'Esprit dans la vie et la pensée de David. Il a discerné que c'était d'abord la gloire de Dieu qui était en jeu dans cette histoire. Il a discerné ça. Et il a choisi de mettre ça, de s'engager pour défendre ça, la gloire de Dieu. Et il a fait ça parce qu'il connaissait Dieu, parce qu'il savait qui était Dieu. Alors probablement à ce moment-là, d'ailleurs, il le connaissait d'une façon probablement limitée. Mais il connaissait sa toute-puissance, il connaissait sa fidélité, Et au cours de sa vie, il apprendra à connaître sa justice, son amour, sa miséricorde. Parce qu'il va l'expérimenter dans tout ce qu'il va traverser. Et aussi parce que Dieu le lui révèle. Dieu lui montre qui il est. Dans moi, ma formation, initialement, c'est la physique. Et en physique, on a des choses qui s'appellent des invariants. Quand on cherche à modéliser un phénomène complexe, on essaie de comprendre ce qui ne bouge pas. Par exemple, la masse. La masse, c'est une des choses qui se conservent. Il y a des choses qui rentrent, des choses qui sortent, des choses qui restent. Et dans tout ce mouvement, ce va-et-vient qui peuvent être compliqués, il y a une chose qui se conserve, qui disparaît jamais, c'est la masse. Il y a deux choses, il y a l'énergie. Et pour écrire les équations qui décrivent la physique et les choses qui nous entourent, eh ben on part de ça. On part de ce qui ne change pas. Et c'est autour de ça qu'on essaie de décrire ce qui se passe. Les invariants, les choses qui ne changent pas. Et pour David, lui aussi, il a choisi ce qui ne changeait pas. Dans sa vie, il a trouvé le rocher, celui sur lequel on peut s'appuyer, celui sur lequel tout va tourner, même quand les choses deviennent compliquées, quand les enjeux sont multiples et complexes, il y a une chose qui ne change pas, une chose sur laquelle il peut s'appuyer, et cette chose-là, bien sûr, c'est Dieu, le fait que Dieu est fidèle, qu'il est là, et qu'il peut compter sur lui. Et il a choisi ça, il a choisi de s'accrocher à ça. Quelles que soient les joies qui arrivent, les souffrances, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les délivrances, quelle que soit la vie, quelle que soit la mort, Dieu demeure. Et David choisit de s'attacher à lui. Et en ça, il est un exemple et un modèle pour nous. Les enjeux spirituels qui sont face à nous dans nos vies, ces enjeux spirituels, c'est souvent de manifester. Manifester qui est Dieu. David a manifesté sa gloire dans ce qu'il a vécu à ce moment-là. Et dans nos vies, c'est pareil. On est confronté au fait de savoir si nous voulons manifester les caractéristiques de Dieu dans nos vies. Manifester sa justice, manifester son amour, manifester sa fidélité. Jésus dirait le royaume de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. C'est la présence de Dieu, c'est les caractéristiques de Dieu manifestées dans nos vies de tous les jours, dans nos familles, dans notre travail, dans l'Église. Nous devons apprendre à distinguer ces enjeux spirituels. Cet enjeu spirituel de manifester Dieu dans nos situations. Il faut apprendre à le voir. Comme David l'a vu dans cette histoire de combat et de violence, David, lui, l'a vu que la gloire de Dieu était en jeu. Et c'est l'Esprit qui peut nous le révéler, comme elle le révèle à David. L'Esprit peut nous révéler comment manifester et quelle est la caractéristique de Dieu qui est l'enjeu de nos situations. Et ces enjeux spirituels, on peut effectivement les distinguer seulement si on a appris à connaître Dieu. On a appris par nos expériences, par tout ce qu'on a pu traverser, on a pu apprendre qui était ce Dieu qui nous appelle à le manifester. Un Dieu qui nous aime, on l'a répété, on l'a redit ce matin. Un Dieu qui est juste, un Dieu qui est saint. Je vais terminer en lisant un psaume de David, où David va redire cet attachement et ce choix qu'il a fait de mettre Dieu au premier plan. Il va parler un peu peut-être de sa relation à sa famille. Donc je lis, c'est psaume 27, et je lis à partir du verset 7. Donc 27, psaume 27, et verset, je lis à partir du verset 7. Ô Éternel, écoute mon appel, car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi, tu as dit, tournez-vous vers moi. Et oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi, ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas. Ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi sur un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires, lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Alors c'est ce que je nous souhaite pour cette semaine et pour notre vie, d'arriver à ce que nous nous attendions à l'Éternel, et à ce que nous répondions à cet appel en étant forts et courageux. Merci.